Bonjour et bienvenue dans les rediffusions estivales de l'Atelier des médias. Depuis 10 ans, une vingtaine de procès ont été intentés contre des journalistes et des médias français ayant enquêté sur les investissements du groupe Bolloré en Afrique. Ces attaques ont été qualifiées par de nombreuses ONG de poursuites ou de procédures bâillons.
Les procédures bâillons, Nicolas Vescovacci, est-ce que c'est un terme approprié? D'ailleurs, d'où vient ce terme?
Alors les procédures bâillons, c'est un terme qui est tiré finalement d'un acronyme américain qui émerge dans les années 80. Et cet acronyme américain s'appelle SLAP. Alors SLAP, pour le S pour stratégique, le L pour lawsuit, against public participation.
Poursuite stratégique contre la mobilisation publique.
Ce sont des procédures qui ont été entamées au début des années 80 par des grands groupes américains pour faire en sorte que les citoyens américains ne puissent pas faire valoir leurs droits auprès de ces entreprises. Et donc c'est SLAP. SLAP en anglais, c'est aussi une baffe. Ces SLAP ont permis aux entreprises d'écraser finalement ces embryons de contestation qui commençaient à poindre dans les années 80 chez les citoyens américains. Donc en France, eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une procédure bâillon? C'est une procédure qui est entamée par un groupe, une institution, une entreprise, afin de déstabiliser l'auteur d'un blog, d'un article, d'une prise de position citoyenne, afin qu'une information ne puisse pas sortir.
L'Atelier des médias, Ziad Malouf.
Le 24 janvier dernier, une trentaine de sites, de médias ou d'ONG ont publié conjointement un texte. Son titre, Face aux poursuites bâillons de Bolloré, nous ne nous tairons pas. Il y est question de procès intentés contre des journaux et des journalistes par le groupe Bolloré ou des entreprises qui lui sont proches. Ce texte est signé par une cinquantaine de personnes ou d'organisations.
RFI.
Au départ, chacun individuellement passait dans l'AFP, tiens, encore un procès de Bolloré, ah bah tiens, encore un procès de Bolloré, ah bah tiens. Et en fait, on s'est dit, mais on est combien? Et donc, on a décidé de faire une petite mailing list, là, le collectif des amis judiciaires de Vincent Bolloré, c'est comme ça qu'on s'est appelé. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était hyper nombreux et on s'est dit, bah tiens, on va se compter, on va essayer de voir s'il y a des similitudes entre nos histoires, nos procédures, et en fait, il y en a. Déjà, la première similitude, c'est qu'on a tous traité, pas de n'importe quelle activité de Bolloré, on a tous traité des activités africaines de Bolloré. Je pense que c'est intéressant de comprendre cela. Et puis, on se rend compte quand on fait le listing que la plupart du temps, Vincent Bolloré retire sa plainte quelques jours avant la tenue du procès. Et en général, quand il va jusqu'au bout du procès, en général, il perd.
Tristan Walex, que vous venez d'entendre, était cette semaine au tribunal de grande instance de Nanterre, tout près de Paris. Il recevait le jugement en première instance d'un des trois procès que lui a valu son reportage Vincent, un ami qui vous veut du bien, diffusé en avril 2016 sur France 2, récompensé ce reportage par le prix Albert Londres. Le journaliste et son employeur ont été relaxés ce mardi pour les 9 passages que le groupe Bolloré estimait diffamatoires dans le documentaire.
J'étais quand même hyper stressé parce que voilà, c'est, les gens ne le savent pas forcément, mais une attaque en diffamation, c'est certes une condamnation symbolique, mais elle veut dire quelque chose. Donc moi, j'aurais trouvé ça assez infamant d'être condamné pour diffamation pour un sujet sur lequel j'ai dit toute la vérité, rien que la vérité. Donc j'étais quand même un peu stressé, même si voilà, je me doutais bien qu'il y avait assez peu de chances qu'il y ait une condamnation. Là, au final, je suis hyper heureux parce que non seulement on gagne, mais en plus la victoire, elle est belle. C'est-à-dire que j'ai suivi d'autres procès en diffamation. Parfois, on a des jugements qui sont favorables, qui relaxent le journaliste. Mais néanmoins, on a les magistrats qui font un petit peu la morale au journaliste en disant qu'il a manqué de prudence dans son expression, qu'il aurait pu enquêter un petit peu plus. Et là, ce que je trouve génial, c'est qu'il y a 9 passages qui étaient attaqués. Sur les 9, il y en a 8 qui sont de manière catégorique considérés comme non diffamatoires, non intentatoires à l'honneur. Et le seul qui peut être intentatoire à l'honneur, c'est le point numéro 9. Et là-dessus, sans aucune mesure, la présidente du tribunal reconnaît qu'on a une prudence dans le propos, que l'on a une enquête sérieuse et approfondie et qu'il n'y a pas lieu de nous condamner. Donc non, c'est vraiment super parce que ça va même au-delà de ce qu'on espérait. C'est-à-dire que on a, non seulement on gagne, mais on gagne largement.
L'Atelier des médias.
Les bâillonnés Deuxième volet avec Nicolas Vescovacci, Tristan Walex et Dan Israël. C'est une émission signée Antoine Saxe, réalisation Simon De Creuse, production Léo Caravagna et Ziad Malouf. There's a place called Africa, far, far away. Ooh, ooh. There's a place called Africa, many miles away. Mama says this way I'm from, and I know she can't be wrong. Take me back.
Je suis journaliste à Mediapart depuis un peu plus de 5 ans et à Mediapart, je m'occupe des questions liées aux entreprises et aux conflits sociaux.
Dan Israël a été poursuivi en diffamation. C'est à la veille de son audience, le 25 janvier, qu'une tribune a été publiée pour dénoncer les poursuites Bayon.
C'est la première fois que je suis poursuivi pour diffamation dans ma carrière. J'ai presque 15 ans de métier. Pour nous, tout commence en juin 2013. On est alerté par le fait qu'un collectif de travailleurs, de paysans, de syndicalistes africains venus de plusieurs pays, de 4 pays, vont se rendre devant la tour Bolloré à l'occasion de l'Assemblée générale du groupe pour alerter à la fois le groupe, ses actionnaires, mais aussi évidemment les médias, pour alerter sur la façon dont les plantations du groupe Bolloré s'implantent, s'installent et travaillent, entre guillemets, dans 5 pays. Ils contestent la façon dont ça se passe et ils estiment qu'ils sont privés, alors c'est divers selon les pays, mais ils s'estiment privés de leur espace vital, de l'endroit où ils peuvent cultiver ou bien chasser, ou même parfois enterrer leurs morts depuis des générations. Donc ils viennent alerter là-dessus. Donc ça commence en 2013 et je suis poursuivi pour un article de suite, finalement, où je continuais à raconter ce combat, un article qui est paru en 2015.
Quel est le rapport avec Bolloré dans cette enquête ?
Alors, ces articles, cette série d'articles, s'intéressent à la façon dont les plantations appartenant au groupe Bolloré s'implantent dans 5 pays. On a 4 pays africains, Cameroun, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Libéria et le Cambodge. C'est des plantations d'EVA et de palmiers à huile. Ces plantations appartiennent, sur le papier, à une entreprise qui s'appelle Socfin. Le groupe Bolloré a toujours dit que la Socfin était une entreprise indépendante et Bolloré n'est que l'actionnaire minoritaire de cette entreprise. Mais au minimum, on peut dire qu'ils ont des liens d'affaires très très proches. Pour nous, Socfin fait partie de la nébuleuse Bolloré. Bolloré est l'actionnaire principal. L'entreprise Socfin est détenue par un de ses partenaires d'affaires très proches qui s'appelle Hubert Fabry. Chacun est membre du conseil d'administration de l'organisation de son ami. C'est vraiment des relations d'affaires, on va le dire comme ça, très très proches.
Comme je l'ai rappelé la semaine dernière, j'ai contacté pour ce reportage les représentants et les avocats des entités mentionnées par les journalistes interrogés. Seul maître Dominique Deleuze, avocat de la Socfin Socapalm, m'a répondu par courrier électronique pour insister sur le fait que son entreprise est différente et indépendante du groupe Bolloré.
L'article qui est poursuivi, c'est le troisième article que j'écris sur les actions qui se poursuivent de ces riverains dans divers pays, parfois au Cameroun, parfois au Sierra Leone, parfois dans plein d'endroits. Donc là, on est le 30 avril 2015 et simplement je raconte deux nouvelles actions du collectif de riverains qui contestent toujours la façon dont les plantations sont gérées ou s'installent sur leur espace. Et je raconte aussi que le groupe Bolloré d'abord a dit qu'il allait s'en occuper, qu'il allait essayer d'arranger les choses. Et finalement, le groupe Bolloré a dit « c'est pas nous, c'est Socfin ». En 2015, ils disent « on peut plus s'en occuper, c'est plus à nous ». Donc il y a une nouvelle série d'actions, notamment au Cameroun, dans une plantation qui s'appelle la Socapalm, où il y a une grève, des revendications sur le combat que ces riverains définissent comme un combat contre l'accaparement de leurs terres. Voilà, donc j'écris cet article tout simplement. Très rapidement, on reçoit un droit de réponse de Socfin. Alors j'avoue être assez étonné à ce moment-là parce que c'est la première fois que Socfin parle en tant que Socfin. Jusque-là, c'est le groupe Bolloré qui parle et qui nous répond. Pas grand-chose, mais qui répond toujours, qui répond à Mediapart et qui répond à d'autres journalistes. Jusque-là, c'est le groupe Bolloré qui a pris en charge les relations avec les riverains. Et là, il y a clairement un changement de stratégie. À la fois, le groupe Bolloré dit aux riverains « c'est pas nous, c'est Socfin qui va s'en charger ». Et la Socfin, pour la première fois, apparaît par le biais d'une lettre d'avocat demandant un droit de réponse. Évidemment, on publie le droit de réponse, où en gros, ils disent qu'il n'y a aucun problème, il n'y a pas du tout de question d'accaparement des terres sur la plantation. Bon, voilà, et quelques jours plus tard, on apprend qu'on, par ailleurs, Mediapart et moi-même, l'auteur de l'article, et Edoui Plenel, le directeur de la publication, nous sommes tous poursuivis en diffamation. Alors, en fait, on est poursuivis sur deux séries de citations. Une phrase du président du collectif de riverains, qui est camerounais et qui s'appelle Emmanuel Elong, et qui, dans un communiqué, explique que la situation concerne des centaines, voire des milliers de personnes dans 5 pays. Donc, il détaille le nombre de personnes par pays qui, selon les décomptes du collectif de riverains, sont concernées. Donc, c'est cette phrase-là qui est poursuivie. Et une deuxième série de citations sont poursuivies. C'est assez étonnant parce que c'est la reprise mot à mot d'extrait de la lettre ouverte que les riverains avaient donnée en juin 2013 en main propre à Vincent Bolloré. Et cette lettre ouverte leur avait valu d'être considérés comme des interlocuteurs légitimes par le groupe Bolloré, puisqu'ils ont été reçus plusieurs fois, il y a eu des comités de suivi, etc. etc. Bon, bah donc quand je fais mon article en 2015, je réexplique quel est le problème, et donc je fais au plus simple et au plus clair et au plus loyal, je redonne les éléments que les riverains eux-mêmes ont rédigés, ont écrits, en disant on a des problèmes sur l'accaparement de nos terres, notre espace vital n'est pas respecté, parfois on ne peut pas chasser, parfois on ne peut plus planter, parfois ça empiète sur les sépultures de nos ancêtres, il y a un problème. Et donc c'est cette deuxième série de citations qui est poursuivie. Et donc l'audience pour le procès en diffamation qui nous est intenté, l'audience a eu lieu fin janvier.
Le jeudi 29 mars 2018, la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a prononcé la relaxe de Mediapart et de Dan Israël, ainsi que des autres organisations et médias poursuivis par la SOCFIN SOCAPALM en diffamation.
Quand on travaille à Mediapart, on a de la chance, dans le sens où on a le temps de faire un travail sérieux et correct, on est bien entouré, bien accompagné. Donc en fait, pour moi, dans mon quotidien professionnel, avoir été poursuivi par SOCFIN ou par le groupe Bolloré, ça ne change rien. J'ai de la chance. Je sais que s'il y a encore un procès, je serai tout aussi soutenu. Je sais que l'entreprise, tous les ans, prévoit beaucoup d'argent pour payer son avocat, pour mobiliser tout le monde, pour se rendre aux audiences. Et à chaque fois, Edoui Plenel est présent aux audiences, par exemple, pour afficher son soutien, ce qui est quand même très précieux. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Maintenant, quand on est un journaliste pour une structure plus petite ou moins habitué au contentieux ou moins habitué à l'enquête, c'est très embêtant parce qu'on sait que quand on va travailler sur le groupe Bolloré ou sur SOCFIN en l'occurrence, on sait qu'on a de très bonnes chances de se faire poursuivre. La question n'est pas tellement de savoir si on va gagner ou pas gagner au procès, parce qu'il y a de très bonnes chances que les journalistes qui travaillent correctement gagnent. Mais en attendant, ça leur aura pris plusieurs semaines de leur temps, beaucoup d'argent, beaucoup de stress, pour finalement, en général, se voir reconnaître que leur travail est sérieux, qu'ils ont fait leur métier et tout simplement leur métier. Donc, à notre sens, il y a clairement une stratégie du groupe Bolloré, en général, pour bien faire entrer dans la tête des journalistes qui travaillent sur ces affaires, notamment en Afrique, pour bien faire entrer dans leur tête que s'ils travaillent dessus, s'ils publient un article, il y aura des conséquences. Et en gros, ça sera embêtant.
Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas si, fais pas ça, ah dada, prout prout cadet, à cheval sur mon bide. Mets pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce. Qu'est-ce que t'as renversé, ferme les yeux, ouvre la bouche. Pour pas tes ongles vilains, va te laver les mains. Ne traverse pas la rue, sinon pas quand tu tues. Fais pas si, fais pas ça, ah dada, prout prout cadet, à cheval sur mon bide. Tu me fatigues, je n'en peux plus dire. Bonjour, dis bonsoir. Ne cours pas dans le couloir, sinon pendant tu fais pas si, fais pas ça. Viens ici au toit de là. Prends la porte, sors d'ici, écoute ce qu'on te dit. Fais pas si, fais pas ça. Ah dada, prout prout cadet, à cheval sur mon billet. Tête de mule, tête de bois, tu vas recevoir une bête.
Depuis 10 ans, une vingtaine de procès ont été intentés contre des journalistes et des médias français ayant enquêté sur les investissements du groupe Bolloré en Afrique. Ces attaques ont été qualifiées de poursuites Bayon, dont le but est de faire taire. L'Atelier des médias consacre 2 émissions à ce phénomène. Aujourd'hui, 2e volet.
Il est certain que le message envoyé par Bolloré ou par ses filiales, qui est de dire si vous écrivez quelque chose, vous avez un gros risque d'être attaqué, il est certain que ça joue. C'est-à-dire que typiquement, pour les actions du collectif de riverains contre l'implantation de ces plantations en Afrique ou au Cambodge, typiquement, si dans un an ils refont une grosse action, il est certain que des rédactions qui n'y consacreront pas beaucoup de temps ou pas beaucoup de moyens hésiteront. Elles se diront, est-ce que ça vaut le coup d'envoyer, de faire un petit article pour relayer ces actions si ça me vaut un procès? Il est certain que c'est le cas. Et à la télévision, je crois que c'est encore plus fort, puisque là, le groupe Bolloré attaque pour un travail sur ces plantations. Le groupe Bolloré attaque France 2 et Envoyé Spécial en déployant les grands moyens. Il est certain qu'une société de production qui travaille pour une télévision va y réfléchir à deux fois avant de relancer une grosse enquête sur ce cas. Même s'ils le font, c'est un risque en plus qu'il faut prendre en compte et un coût financier conséquent.
Vincent Bolloré n'a jamais beaucoup aimé qu'on parle de lui, mais l'été dernier, il s'est trouvé sous les feux des projecteurs lorsqu'il a pris le contrôle de Canal+ et brutalement éjecté la plupart de ses dirigeants. C'est à ce moment-là qu'on a eu envie d'en savoir plus sur ce patron puissant et secret. Tristan Welex a enquêté 6 mois pour complément d'enquête. Vincent Bolloré et ses proches lui ont ouvert quelques portes, mais pas beaucoup. C'est une enquête qui a souvent ressemblé au jeu du chat et de la souris. Et finalement, Vincent Bolloré n'a pas apprécié ce portrait. Il nous l'a fait savoir. On y reviendra tout à l'heure.
Je m'appelle Tristan Welex et je suis journaliste à France 2.
Le 7 avril 2016... vous diffusez un documentaire qui s'appelle Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien avec un point d'interrogation.
Alors le but en fait c'était de faire un portrait de Vincent Bolloré, un portrait qui ne soit ni à charge ni à décharge, c'est-à-dire que on voulait explorer toutes les facettes et toute la personnalité de ce monsieur et de ses activités, à la fois l'histoire et ses réussites passées, et puis enquêter aussi sur les aspects un peu plus sombres de son activité. Clairement ce qui était intéressant en 2016 c'est un petit peu le nouveau visage de Vincent Bolloré, c'est-à-dire que depuis qu'il a une arrivée assez tonitruante dans les médias et à Canal+, c'est sûr que son rapport au journalisme et à la presse et au monde médiatique est un aspect intéressant, et en même temps c'est quelqu'un qui a des activités qui sont tellement multiples qu'on ne pouvait pas faire l'impasse sur tout le reste de ses activités, notamment ses activités africaines qui restent vraiment le cœur, notamment le cœur financier de ses activités.
Vous étiez dans quel état d'esprit quand vous avez lancé ce documentaire ? Quel était l'objectif principal ? Je précise, est-ce que c'était de pointer les problèmes africains qui avaient été eux-mêmes rassemblés par différents collègues, hein, vous êtes nombreux à travailler sur ces questions, ou est-ce que c'était la partie où on découvre ses origines bretonnes, la façon dont il a conquis différentes entreprises comme Havas, etc. Donc...
Alors justement, le but c'était de parler de tout ça à la fois, c'est-à-dire qu'on n'est ni dans un portrait autorisé, enfin dans un, en gros un spot publicitaire pour Bolloré, ni dans une espèce de d'enquête à charge avec uniquement les points négatifs de Bolloré. Nous, ce qui nous intéressait, c'est de raconter à la fois ses points positifs et ce pourquoi il peut éventuellement forcer un peu l'admiration, parce que c'est quelqu'un qui a eu une réussite assez extraordinaire dans les années 80, et on voulait aussi enquêter sur les aspects les plus sensibles et sur les aspects sur lesquels il y a vraisemblablement un problème, et notamment en Afrique.
Comment a-t-il fait d'une fabrique de papier à cigarettes à 2 francs, une puissante multinationale qui pèse 15 milliards d'euros? Voyage en territoire Bolloré, des usines de batteries jusqu'aux ports africains, en passant par les plantations d'huile de palme, le côté obscur de son empire.
Ça, c'est le côté caché de Bolloré, que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est ça qui lui donne de l'argent, c'est ça qui lui procure beaucoup de l'argent.
Il est très puissant, Bolloré. Il a l'expertise, mais également il a le relationnel. Donc les deux jouent en sa faveur, forcément. Donc il sait tisser les liens, les entretenir, non?
Alors, Tristan Welex, votre cas est assez original, puisque vous avez dans un premier temps été accusé publiquement d'avoir bidonné votre reportage, de l'avoir truqué en payant un faux témoin. C'était pas une attaque juridique au début, mais quand même assez marquante, je crois.
C'est ça, moi je me souviens très bien, c'était le 3 juin 2016, 2 mois à peu près après la diffusion du reportage, à l'Assemblée Générale du groupe Bolloré. Donc il n'avait pas ni demandé de droit de réponse, ni fait de plainte en diffamation. Il nous a accusé publiquement d'avoir payé en fait des faux témoins, des gens qui étaient majeurs selon lui, qu'on aurait payé pour leur demander de se faire passer pour des mineurs qui travaillaient dans des plantations de la socapane, enfin des accusations totalement absurdes.
Je ne sais pas si vous avez vu Complément d'enquête, qui a été un truc absolument... Ça a mis, c'est pas d'un journaliste qui est passé et par hasard il a filmé des trucs. Ils ont mis 6 mois sur le service public. Le moment le plus important de celui qui fait pleurer les chaumières... Tiens, remettez un peu de clim s'il vous plaît, parce que là du coup il fait chaud. Ce qui fait rien que d'y penser, ce qui fait pleurer dans les chaumières, on voit un type sur un tracteur. Il a un gant troué, Et il y voyait, ça, M. Bolloré, il ne veut pas me donner le gant. Et après, il se retourne vers le type à l'arrière. Alors le commentateur dit, et ils font travailler des enfants, enfin c'est un truc comme ça. Et quel âge tu as, toi? Le type dit, j'ai 14 ans. Il y a des huissiers qui sont partis sur place. Et j'ai les exploits d'huissiers avec moi. Donc le jeune homme qui avait soi-disant 14 ans, il a 20 ans. Et il a été payé pour dire qu'il avait 14 ans.
Est-ce qu'on peut préciser quel passage du documentaire est visé?
Alors, en fait, ça vise un passage très particulier. C'est-à-dire que on est allé tourner dans les plantations près de Douala, les plantations de la Soca Palme. Et la Soca Palme, c'est une exploitation d'huile de palme qui appartient à la Socfin. Et la Socfin, c'est une société, une holding dont Vincent Bolloré est actionnaire à 38%. Donc, ça, pour nous, ça avait du sens d'aller tourner là-bas parce que Vincent Bolloré, à plusieurs reprises, a été pointé du doigt comme étant co-responsable de ce qui se passait dans ces plantations camerounaises. Et c'est vrai que quand on est arrivé sur place, on a découvert des conditions de travail encore pires que celles qu'on imaginait en ayant lu déjà quelques articles ou rapports sur le sujet. C'est-à-dire que l'on avait énormément de mineurs qui travaillaient sur place, on avait des gens qui travaillaient sans équipement ou alors avec des gants complètement troués, on avait des gens qui étaient payés à la tâche en étant rémunérés à peine plus d'un euro par jour, enfin vraiment des conditions de travail dignes du Moyen-Âge. Ce qui était vraiment étonnant pour nous, c'est que ces problèmes à la Soca Palme avaient été plusieurs fois relevés par des journalistes, par des associations, qu'à plusieurs reprises Vincent Bolloré s'était engagé à régler les problèmes et vraisemblablement il ne s'est pas passé grand chose depuis.
Après cette première salve de mensonges, de votre point de vue, Tristan Welex, il y a eu la phase judiciaire. Comment est-ce que c'est arrivé ?
Oui, donc effectivement, après ces attaques publiques, on a reçu trois plaintes différentes. Si vous voulez que je les détaille, en gros, il y en a une pour diffamation en France, une pour diffamation au Cameroun, devant le tribunal de Douala. C'est une procédure beaucoup plus inhabituelle pour nous. C'est la première fois que France 2 est attaquée au Cameroun, dans un pays où la diffamation est punie d'une peine de prison ferme. On a trouvé que c'était assez étonnant. Et puis on a reçu une troisième plainte, cette fois au tribunal de commerce, donc là aussi c'est complètement inédit. Bolloré attaque France Télévisions au tribunal de commerce et réclame 50 millions d'euros de dommages et intérêts pour dénigrement et concurrence déloyale. Donc c'est vrai que ça aussi c'est quelque chose qui personnellement m'inquiète un petit peu. C'est-à-dire que moi je trouve ça tout à fait normal que Vincent Bolloré, s'il s'estime diffamé, puisse attaquer en diffamation, c'est-à-dire que qu'on puisse aller s'expliquer devant des juges qui sont spécialisés en droit de la presse pour voir si on a menti à son endroit, etc. Je trouve ça tout à fait normal. En revanche, le fait qu'il nous attaque au Cameroun, enfin via la Soca Palme, c'est pas lui directement qui nous attaque au Cameroun, c'est la Soca Palme. Et donc le fait que l'on soit attaqué au Cameroun et que Bolloré attaque France 2 au tribunal de commerce, c'est à mon sens un détournement de la loi sur la liberté de la presse, c'est-à-dire que Vincent Bolloré a vraisemblablement si peu confiance en la justice française pour faire reconnaître qu'il y a diffamation, qu'il est obligé de trouver des petits artifices procéduraux pour tenter peut-être d'obtenir une condamnation, et encore ça risque d'être très compliqué pour lui.
Round 1, fight!
En quoi est-ce que c'est une première de voir le groupe Bolloré attaquer France Télévisions au tribunal de commerce?
En tout cas, c'est inédit, c'est une grande première dans l'histoire de France Télévisions, parce que en France, depuis 1881, il y a une loi sur la liberté de la presse qui veut que lorsque l'on n'est pas content d'un propos public ou d'un reportage, on saisit le tribunal correctionnel pour diffamation, et c'est un délit qui est encadré par la loi, ça s'appelle la loi sur la liberté de la presse. Voilà, si jamais on est diffamé, on peut attaquer quelqu'un pour diffamation, c'est la règle, et ça fait plus d'un siècle que c'est comme ça. Et là, le fait de nous attaquer non pas dans le tribunal correctionnel mais devant le tribunal de commerce, c'est une manière donc de détourner cette loi sur la liberté de la presse pour tenter de faire reconnaître une diffamation devant un tribunal qui n'est pas compétent pour juger d'une diffamation. C'est-à-dire que il va plaider le fait qu'il a subi un préjudice commercial à cause d'une diffamation, mais sans faire juger sur le fond la diffamation. Enfin, c'est quelque chose qui n'existe pas, et enfin, qui correspond pas au droit français, et puis surtout qui est complètement délirant dans les sommes qu'ils réclament, c'est-à-dire qu'ils demandent aujourd'hui 50 millions d'euros de dommages et intérêts. 50 millions d'euros, c'est énorme, c'est le budget de France Info. Enfin, ce sont des sommes qui sont complètement astronomiques, et pour moi, cette procédure, il n'espère même pas la gagner, Vincent Bolloré, quand il porte plainte au tribunal de commerce et qu'il réclame 50 millions d'euros, c'est juste pour faire ce qu'il a fait à l'époque, un communiqué de presse, pour dire attention, si jamais vous continuez à faire des reportages sur moi, voilà ce que je vais vous réclamer.
Est-ce que vous êtes serein sur absolument tous les tableaux ou pas ?
Oui. Enfin, très clairement, on est attaqué en gros sur deux choses. On est attaqué pour les histoires de plantation et d'exploitation d'huile de palme, et on est attaqué aussi sur l'affaire du port de Kribi, sur la manière dont Vincent Bolloré a obtenu la concession du port de Kribi. Et pour ces deux éléments, on savait honnêtement avant de faire ce reportage à quel point Vincent Bolloré était procédurier et avait tendance à porter plainte en diffamation dès lors qu'on s'intéressait à ces affaires africaines. Alors à chaque fois qu'on fait un reportage, on est toujours rigoureux, scrupuleux, et on vérifie toujours 50 fois tout ce que l'on raconte. Mais là, j'aurais envie de dire qu'on a fait encore plus attention que d'habitude, et que le sujet a été vu, revu, contrôlé de très nombreuses fois par notre service juridique, parce qu'on savait qu'on avait affaire à un poids lourd, à quelqu'un qui n'hésitait pas à engager des procédures judiciaire lourde. Donc évidemment qu'on est plus que serein et qu'on aura l'occasion de pouvoir discuter sur le fond, que je pourrai présenter mes pièces et que l'on pourra débattre vraiment de la véracité de ce que l'on a raconté dans ce reportage. Mais oui, je n'ai pas l'ombre d'un doute sur le fait que à la fin sa plainte fera flop.
À la sortie de l'audience, Tristan Walex affiche une mine soulagée.
Je suis hyper heureux, évidemment, parce que même si on savait qu'il y avait une chance sur mille pour que l'on puisse perdre cette procédure, on savait qu'il y avait toujours un risque. Vraisemblablement, tous nos documents et très nombreux documents et témoignages qu'on a produits ont largement convaincu le tribunal qu'il n'y avait aucun problème.
Maître Juliette Félix, avocate de la Défense.
Le tribunal a pu retenir que le ton était un tout petit peu vif, mais le tribunal a aussitôt exposé que ses propos étaient parfaitement justifié par l'intérêt général du sujet et par le fait que l'ensemble de la séquence était équilibré.
Lors du procès en avril, maître Olivier Baratelli, l'avocat de Vincent Bolloré, avait demandé 450 000 euros de réparation. La demande a donc été rejetée par la justice française.
Bolloré, ce qu'il veut, lui, c'est embêter les journalistes, leur faire perdre du temps, leur faire peur, leur faire dépenser de l'argent, qu'ils passent leur temps chez leurs avocats au lieu d'aller enquêter en Afrique. J'ai passé des nuits et des nuits, parce que j'ai aussi un travail, donc j'ai passé des nuits et des week-ends à démonter tous les mensonges de Bolloré et de son avocat qui étaient dans les écritures. Et en fait, moi j'ai un peu changé d'avis entre le tout début de la procédure et aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au départ, quand il a porté plainte contre nous, je disais bon, moi je fais pas partie des gens qui pensent qu'il doit y avoir l'immunité pour les journalistes. Je trouve ça très bien qu'un journaliste puisse être attaqué en diffamation si la personne qui s'estime diffamée veut porter plainte. Mais ce que fait Bolloré là, c'est vraiment un abus de cette procédure. C'est-à-dire qu'en nous attaquant trois fois, deux fois directement au tribunal de commerce et au tribunal d'Anterre, une fois via la Soka Palme au Cameroun, on est clairement sur une stratégie massive qui ne vise qu'à nous intimider, à nous faire perdre du temps. Et voilà, moi j'y ai passé concrètement, tous les trois mois, il faut faire des offres de preuves, faut faire venir des témoins du Cameroun qui n'ont pas de papier, à qui il faut faire des visas, des témoins qui eux-mêmes nous disent être victimes de pression sur place. C'est des heures passées au téléphone, des heures et des nuits passées chez les avocats, et c'est quelque chose, enfin, moi je préférerais passer mon temps à continuer à enquêter sur Bolloré ou sur d'autres gens et passer un peu moins de temps dans les tribunaux ou chez mes avocats.
RFI.
Vincent Bolloré, dans sa communication, depuis toujours, il y a un prisme déformant sur la manière dont il vend son groupe. Quand il vend son groupe, il vend les batteries électriques, alors que les batteries électriques, ça ne lui rapporte rien. Maintenant, il vend un peu plus la partie communication, Havas, Vivendi, Canal+, etc. Alors qu'en fait, tous ces secteurs d'activité-là ne pèsent quasiment rien au sein du groupe Bolloré. Aujourd'hui, il faut savoir que 80% des bénéfices du groupe Bolloré, c'est l'Afrique, ce sont les activités africaines.
Les bénéfices, hein, pas le chiffre d'affaires.
Les bénéfices
bénéfice, donc le plus important. Et même le chiffre d'affaires, je crois qu'on est à 20 ou 25%. Donc on est, c'est-à-dire pour un investissement moindre, ça rapporte beaucoup d'argent. Et donc c'est un secteur clé. C'est d'ailleurs drôle parce que dans le JDD, il fait mine de s'interroger sur le fait de quitter l'Afrique éventuellement ou non suite à sa mise en examen. Et en réalité, s'il quitte l'Afrique, il n'y a plus de groupe Bolloré. Donc c'est vraiment n'importe quoi. On ne peut pas le croire une seule seconde. Mais en tout cas, l'Afrique, c'est vraiment la clé de voûte du groupe Bolloré. Mais comme c'est pas forcément quelque chose qu'il veut mettre en avant, il s'attaque à tous les journalistes qui traitent de ces activités africaines. Et c'est vrai que moi je connais très peu de journalistes qui sont allés enquêter soit sur la manière dont il obtient ses concessions portuaires en Afrique, soit qui sont allés dans les palmeraies dont il est actionnaire, qui n'ont pas eu de procès à la fin, parce que ce sont déjà en soi des sujets qui ne sont pas beaucoup traités parce qu'ils coûtent cher, c'est à l'étranger, c'est en Afrique, ça coûte beaucoup d'argent, et le peu de gens qui y vont se retrouvent attaqués par Bolloré, donc c'est sûr que ça dissuade un petit peu, quoi.
Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet. http://atelier.rfi.fr.
I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space. Into outer space to find another race. Satan is a evil host man, but him can't choke sit on I man. So when I check him, my lass in hand, and if him slip a gun with him hand, I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt.
Vous écoutez l'Atelier des médias, Les Bâillonnés, une enquête d'Antoine Saxe qui donne la parole à des professionnels de l'information qui s'estiment victimes de poursuites Bâillon, cette manière d'abuser du droit et de la justice pour faire taire des journalistes un peu trop curieux. Une méthode employée selon plusieurs ONG par le groupe Bolloré ainsi que Vivendi et la SOCFI. Dernier récit, dernier témoin du jour, une voix que beaucoup d'entre vous connaissent bien.
Je m'appelle Nicolas Vescovacci, j'étais un fidèle auditeur de RFI et j'y ai travaillé pendant pratiquement 10 ans avec un grand plaisir. On a traversé ensemble avec la radio plusieurs périodes difficiles et j'ai fini par en partir de cette radio que j'aime toujours.
Alors depuis De l'eau a coulé sous les ponts, vous avez fait un documentaire qui à l'origine était prévu pour être diffusé sur Canal+. Et puis finalement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Racontez-nous cette histoire qui est à l'origine de cette interview aujourd'hui.
Alors oui, c'est un documentaire que nous avons réalisé à plusieurs. C'est une entreprise collective sur la banque, le Crédit Mutuel CIC, qui était à l'époque la 5e banque française, qui l'est toujours. Et nous avons à l'époque énormément de documents et de nouvelles sources capables de nous raconter de l'intérieur ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'évasion fiscale présumée. Et donc on s'est lancé dans cette enquête très rapidement avec un objectif, c'était de produire ce documentaire, de le réaliser, le monter en moins d'un mois et demi. Ce que nous avons fait, on a tenu ce pari en travaillant jour et nuit jusqu'à ce que l'on apprenne quelques jours avant la diffusion, c'était normalement le 18 mai 2015, on a appris que ce documentaire ne passerait pas sur l'antenne de Canal+, dans l'émission spéciale investigation, dans la case normalement dans laquelle il était programmé. Et c'est comme ça finalement que M. Bolloré est entré dans nos vies, un peu par effraction, en intervenant directement sur le programme et en censurant directement le film que nous avions réalisé.
Que vient faire M. Vincent Bolloré dans cette histoire ?
Alors M. Vincent Bolloré est déjà depuis quelques mois le grand patron de Vivendi. Il en a pris le contrôle quelques mois auparavant lors d'une assemblée générale du groupe Vivendi. Et comme Canal+ est la filiale principale de Vivendi en France, eh bien M. Bolloré s'est érigé en grand patron des programmes de Canal+. Et quand il s'est agi de prendre une décision concernant notre documentaire, il l'a assumé et il a, grâce au coup de fil du patron de la banque, qui l'a prévenu qu'un documentaire se réalisait sur sa banque, eh bien, il est intervenu directement. Et il a, oui, on l'assume depuis le début, censuré ce documentaire un peu à l'ancienne, non pas en prenant des ciseaux comme on le faisait à RFI il y a encore 15 ans, mais en décidant de retirer ce programme de l'antenne.
Le film de Nicolas Vescovacci, Évasion fiscale, enquête sur le crédit mutuel, a finalement été diffusé sur France 3 en octobre 2015.
Nicolas Vescovacci, de votre côté, vous avez continué à enquêter. On peut dire que cette censure a été l'aiguillon de l'écriture de ce livre, Vincent Tout-Puissant, que vous avez coécrit avec Jean-Pierre Canet.
Alors oui, nous ne sommes pas rentrés dans un bras de fer avec M. Bolloré, parce que d'abord nous n'avions pas d'intérêt à jouer à un bras de fer. Ce qui nous a marqué, c'est la violence, parce que c'est quand même violent ce qui nous est arrivé. C'est ça qui nous a marqué d'abord. Et ensuite, c'est un éditeur qui nous a contactés, afin que nous nous penchions sur le cas de M. Bolloré. Ce n'est donc pas une initiative personnelle. Dans ce livre, nous ne réglons aucun compte, nous expliquons la mécanique Bolloré, comment ce patron fonctionne, comment il prend le contrôle des entreprises. Et sollicité par une maison d'édition, nous avons décidé donc quasiment un an plus tard de nous mettre à la rédaction de cet ouvrage, d'enquêter, d'écrire, d'aller chercher de nouvelles sources, de confronter certaines sources et d'essayer de nous pencher sur le cas intéressant de ce grand patron qui, évidemment, contrôle des médias en France, contrôle énormément d'intérêts en Afrique, participe au développement de ce pays, puisqu'il y emploie de nombreux salariés. Et de ce point de vue-là, il est donc intéressant de se pencher sur le fonctionnement de cet homme d'affaires.
Quelles sont les principales révélations du livre ?
Il y en a beaucoup des révélations dans le livre. Ça va de manière anecdotique à la manière dont il a fait réaliser un sketch mettant en scène sa propre arrivée dans le groupe Canal+, par les guignols de l'info. Guignols de l'info qui, depuis son arrivée, d'ailleurs ont perdu énormément de leur substance.
Depuis cet enregistrement, Canal+ a même annoncé la fin des guignols de l'info.
Ça va aussi de la manière très précise avec laquelle nous révélons la manière dont il prend le contrôle de différentes entreprises, la manière aussi dont il a une stratégie financière légale, mais contestable, de certains points de vue que l'on développe dans le livre. On montre aussi la porosité qu'il peut y avoir entre, j'allais dire, l'entourage de M. Bolloré avec les plus grands flics de France, puisque M. Bolloré et Vivendi adorent s'entourer de personnalités du monde de la police ou de la gendarmerie ou des élites de la police, que ce soit le RAID ou ailleurs. On démontre aussi comment Monsieur Bolloré a été protégé à droite. Comment il a travaillé dans le, j'allais dire dans le giron, non peut-être pas dans le giron, mais comment sous une aile protectrice politique de Monsieur Sarkozy, il a pu développer ses affaires. Car c'est entre 2007 et 2012 que Monsieur Bolloré a fait le plus d'affaires et a développé le plus vite ses affaires, notamment en Afrique, à travers de nombreux contrats et notamment la logistique portuaire de certains ports en Afrique. On raconte également comment François Hollande a lui aussi fait le jeu de Vincent Bolloré en Afrique, notamment au Cameroun. Cette histoire que nous racontons, c'est celle du port de Kribi au Cameroun. On raconte comment M. Hollande, en juillet 2015, alors que M. Bolloré est en train de tout détruire à Canal+, eh bien M. Hollande fait de la publicité pour M. Bolloré devant le président camerounais Paul Biya. M. Bolloré a toujours contesté le fait que François Hollande, président de la République, l'aide dans ses affaires. Or, c'est François Hollande, pour ce livre, qui nous l'a confirmé directement. Donc voilà, il y a évidemment d'autres petites révélations, mais le livre raconte surtout la mécanique Bolloré, comment il prend le contrôle des sociétés, comment, sous un regard un peu enjôleur, vous savez, son surnom, ou l'un de ses surnoms, c'est le Smiling Killer. Le Smiling Killer, en français, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le tueur souriant. C'est vrai que Vincent Bolloré a un certain talent pour faire venir à lui ses ennemis, arriver à les convaincre qu'il va travailler avec lui ou avec eux, pour finir finalement par les assassiner du point de vue économique quand il en ressent le besoin ou quand c'est le bon moment. Donc ce surnom de Smiling Killer lui va assez bien finalement. Il est capable de cajoler, d'enjôler et en même temps de tuer, du point de vue économique bien sûr, de tuer ses ennemis. Et il y a une définition qu'on donne de lui qui est aussi très juste dans ce bouquin. D'ailleurs, il la revendique lui-même, c'est qu'il dit souvent qu'il est un activiste. Alors, vous et moi, activiste, ça fait référence plutôt à la gauche, à l'activisme politique. Or, lui, il se définit comme un activiste au sens anglo-saxon du terme. Un activiste dans le milieu financier à Londres ou aux États-Unis, c'est quelqu'un qui investit à court ou moyen terme pour récupérer énormément d'argent par le retour de dividendes et faire en sorte de s'enrichir le plus rapidement possible. Et Vincent Bolloré est un activiste. Dans Vivendi, il a investi énormément d'argent pour que ça lui rapporte très très vite. Et on le voit dans la mécanique financière que nous décrivons en détail dans le bouquin. Ce qui m'est arrivé, en fait, est assez inédit. J'en fais pas un étendard et je ne joue pas la victime. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à enquêter sur Vincent Bolloré, j'ai fait mon boulot comme n'importe quel journaliste, c'est-à-dire que j'ai envoyé des questions à M. Bolloré pour qu'il réponde tout simplement à ces questions. On appelle ça faire le contradictoire dans une enquête. Vous êtes forcément à charge sur quelqu'un quand vous enquêtez, mais vous, évidemment, vous devez solliciter la partie pour lui donner la parole. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai sollicité directement M. Bolloré et les cadres de l'entreprise de Canal+ et de Vivendi pour qu'ils répondent à mes questions. Et la seule réponse que j'ai eue, c'est un huissier à ma porte me demandant d'arrêter d'envoyer des mails et des SMS. Je rappelle que j'ai envoyé 22 mails et 14 SMS sur une période de 3 mois, ce que le groupe Vivendi a compris comme un harcèlement de ma part. Et d'ailleurs, dans la lettre qui m'est envoyée, signée de la main de Arnaud de Puyfontaine, l'un des patrons de Vivendi, il est dit que j'aurais déstabilisé la bonne marche de l'entreprise en envoyant 22 mails et 14 SMS dans une période de 3 mois. Alors, au départ, j'ai cru à un canular journalistique, à vrai dire. J'ai cru que c'était un de mes potes journalistes qui me faisait une mauvaise blague. Mais non, c'était écrit noir sur blanc. J'avais donc déstabilisé la bonne marche de l'entreprise par mes envois de mails. Et le paragraphe d'après était assez simple également, puisque l'entreprise considérait que cette déstabilisation valait 700 000 euros de dommages et intérêts. Donc ça veut dire que l'un des patrons de Vivendi, M. Dupuis-Fontaine, caché derrière M. Bolloré, évidemment, me demandait 700 000 euros pour avoir déstabilisé l'entreprise. J'en ris encore aujourd'hui. J'en ai ri d'ailleurs quand j'ai lu ce paragraphe. J'en ris moins aujourd'hui parce que je trouve ça assez dingue de faire ça. On a l'impression d'avoir reçu une sorte de scud étant un missile, de manière préventive pour essayer d'empêcher la publication d'un ouvrage. C'est peut-être l'ambition de ces courriers que j'ai reçus. En tout cas, le livre est sorti, l'éditeur nous a soutenus et on est allé jusqu'au bout de ce travail. Aujourd'hui, eh bien, la procédure suit son cours. J'ai une assignation devant le tribunal de grande instance de Paris. Je n'ai pas de nouvelles depuis janvier 2016. Nous sommes donc en 2018 et si nous allons au tribunal, je serais ravi de pouvoir rencontrer M. Bolloré enfin au tribunal et je serais ravi d'expliquer notre position, c'est-à-dire une position simple, celle d'un journaliste qui a fait son boulot.
Vos confrères de Mediapart, de France Télévisions, Libération, etc. ont systématiquement un soutien juridique. Leur procès est pris en charge financièrement par leur diffuseur. Comment ça se passe pour vous qui avez écrit un livre? Donc un éditeur, ce n'est pas une chaîne de télé, ce n'est pas une chaîne de radio, ce n'est pas la même puissance.
Écoutez, c'est simple et compliqué à la fois. Quand on est un auteur de livres, on est finalement assez seul dans une entreprise comme celle-ci. D'abord dans l'écriture, ensuite il y a un éditeur. L'éditeur évidemment nous a soutenus et je peux le remercier ici, nous a soutenus jusqu'au bout, mais les risques juridiques sont partagés entre la maison d'édition et l'auteur. C'est-à-dire que dans un procès, s'il devait y avoir procès dans les mois ou les années qui viennent, le risque juridique et donc le risque financier lié à ce risque juridique nous incomberait pour moitié à Jean-Pierre et à moi. Et quand on parle de risque financier, on parle là de plusieurs milliers d'euros, voire au-delà de 10 000 euros, en frais d'avocat, en frais de justice. Et c'est sûr que ces milliers d'euros que nous n'avons pas sont un problème. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, au départ de notre entretien, d'autocensure. C'est qu'il y a la censure existe, mais l'autocensure est peut-être une plaie encore plus importante, parce que les journalistes s'autocensurent de peur de se voir poursuivi, de peur d'aller jusqu'à un tribunal, de peur de déplaire à X ou à Y. Et donc ça, c'est peut-être plus grave que la censure. Dans toutes les rédactions, il y a de l'autocensure.
L'audience pour la plainte de Vivendi contre Nicolas Vescovacci est en attente. Aucune date n'a été fixée pour le moment. Le 12 avril prochain, ce mardi, Tristan Walex et son employeur seront quant à eux fixés concernant la plainte commerciale en dénigrement de Bolloré contre France 2.
Je pense que comme pour la diffamation, il y a une chance sur 1000 pour que France 2 finisse par être condamné. Mais en tout cas, la question qui se pose, elle est hyper intéressante. Est-ce qu'en 2018, on peut faire un reportage qui est considéré comme non diffamatoire et qui est considéré comme conforme à la loi sur la liberté de la presse de 1881, d'après un tribunal correctionnel français, et malgré tout être condamné à 50 millions d'euros de dommages et intérêts parce que l'on a causé ce reportage véridique et tout à fait conforme à la loi sur la liberté de la presse, a causé un préjudice aux intérêts d'une entreprise. Et est-ce que, pareil, est-ce qu'un journaliste, parce qu'il y a aussi une troisième procédure au Cameroun, est-ce qu'un journaliste qui a fait un reportage qui est totalement conforme à la loi d'après un tribunal français peut être condamné à de la prison ferme au Cameroun ? C'est une question qui se pose, et c'est vrai que Vincent Bolloré, il est lui-même patron de presse, donc a priori c'est quelqu'un qui devrait pouvoir se battre un petit peu pour la liberté de la presse. Moi j'aimerais l'entendre là-dessus. Est-ce que, à partir du moment où notre reportage est considéré comme étant totalement conforme à la loi sur la liberté de la presse, est-ce qu'il trouve normal de continuer à réclamer 50 millions d'euros à France 2? Est-ce qu'il trouve normal que ses partenaires de la Soca Palm continuent à réclamer la prison ferme pour ma PDG Delphine Ernotte, Nicolas Poincaré, mon présentateur et moi-même? C'est quelque chose qui est intéressant à mon avis. Silence that I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell, whispering. Of silence.
L'atelier des médias, Ziad Malouf.
C'était la rediffusion des Bâillonnés, deuxième volet, une émission signée Ziad Malouf, Simon de Creuse et Antoine Saxe. Le premier volet est à réentendre sur notre podcast et sur RFI.fr. Sachez que France Télévisions a été relaxée par le tribunal de commerce le 12 avril dernier. La semaine prochaine, c'est la reprise de l'atelier des médias. Nous serons ravis de vous proposer des émissions toutes neuves consacrées aux médias et à la société numérique.
Sou a dama da zona rabuda que manda no requebrar. A criola que goia te ama, te beija, faz viajar. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu.